Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Bonjour à tous, Lecture par tous vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre de Raymond Alcover. Bonjour Raymond.
Bonjour.
Alors, on commence à vous connaître, c'est un euphémisme si je puis dire, sur Montpellier, puisque vous écrivez à Montpellier depuis de nombreuses années. Il y a eu quoi ? Il y a une bonne demi-douzaine de romans, je crois.
Oui, à peu près, oui.
Voilà.
Quatre romans, plus, oui.
Voilà, donc y compris un roman policier, j'ai ça à côté de moi là, j'avais découvert rien compris au rock'n'roll.
Oui.
Et puis il y a aussi, depuis les deux derniers titres qui sont partis, c'était ces Héroletais qui ont fait l'histoire, et puis il vient de paraître Au lieu de l'histoire, dans l'héros, hein, deux livres que vous a demandé de réaliser, et apparemment vous avez pris plaisir à le faire. Un éditeur local qui s'appelle Le Papillon Rouge.
Oui, et pour être précis, il y en a même un troisième. Enfin, avant, c'est les deux que vous avez évoqués. Il y avait Histoire vraie en mer Méditerranée, en fait.
Effectivement, j'ai vu voilà, ça aussi. Voilà.
C'est celui qui m'a d'ailleurs un peu lancé, entre guillemets, dans ces récits historiques.
Alors, pour qualifier, alors, on va surtout parler du dernier. On avait déjà échangé dans une émission précédente sur les... Ces Héroletais qui ont fait l'histoire. Alors, à propos des hauts lieux de l'histoire dans l'Hérault, j'aurais envie de présenter ce livre, vous me dites si vous en êtes d'accord, un livre de promeneur littéraire et historique.
Oui, c'est ça, en fait. C'est une façon de faire le portrait, de raconter le département de l'Hérault, mais à travers des lieux et des événements, effectivement. Donc, généralement, les grands événements historiques sont liés à des lieux. Donc là, j'ai choisi de coupler les deux, c'est-à-dire en racontant ce qui m'a semblé quand même un peu le plus important dans l'histoire du département, à travers les lieux qui les ont habités. Alors, bien sûr, il y a les incontournables, il y a les grands événements que tout le monde connaît, comme la grande révolte des vignerons en 1907, etc.
Ouais.
Mais j'ai aussi choisi, bon, pour pas non plus faire un catalogue un peu trop, enfin, d'abord, ça n'a rien d'exhaustif, évidemment, j'ai essayé de choisir parfois des événements moins importants, mais qui racontaient quelque chose de ce département par leur originalité, par leur... Voilà, donc c'est un tour d'horizon, effectivement, littéraire et historique. Mais, enfin, littéraire, pas vraiment littéraire dans le sens où c'est... il n'y a aucun effort d'imagination dans mon travail. C'est vraiment, là, je me contente de relater des choses vraies, quoi. Voilà.
Oui,
c'est totalement historique.
C'est pas de la fiction, hein, on va dire.
Voilà, sauf que bon, comme effectivement, j'ai écrit avant de la fiction. Bon, voilà, c'est plus une facilité littéraire, je dirais, que j'ai pour raconter une histoire qui me sert à ce moment-là. Mais en fait, je ne me base que sur des faits réels.
D'accord. Oui. Alors, comment vous avez choisi ces différents moments ? Bon, vous dites des choses spécifiques à l'Hérault. Bon, vous évoquez les manifestations de 1907. Bon, c'est aussi lié à la situation et à l'environnement agricole de l'époque. Et puis c'est lié aussi au contexte méditerranéen. On peut peut-être rappeler quand même pour nos auditeurs qui en auraient vaguement entendu parler, qui savent pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'était 1907 ? C'est une énorme manifestation à Montpellier, au bout du compte, absolument gigantesque.
En fait, cette manifestation gigantesque, elle est le point d'orgue d'une révolte qui a duré des mois et des mois et qui couvait depuis des années. En fait, si vous voulez, il faut se rappeler qu'au 19e, surtout dans la deuxième partie du 19e, toute la région, enfin, qui s'appelait pas encore Languedoc-Roussillon, mais c'était celle-là, vivait du vin. C'était un choix de l'État qui avait décidé que dans cette région, ça serait ce qu'on appelait le gros rouge, le vin de consommation courante qui serait produit. Et cette région, à ce moment-là, s'est enrichie énormément. Mais il y a eu des crises, il y a eu des crises de de surproduction, il y a eu des histoires d'alcool frelaté, enfin, il y a eu un certain nombre de problèmes qui ont fait que le phylloxéra, que la situation s'est dégradée, et tout d'un coup, la richesse est devenue pauvreté. C'est-à-dire que comme toute la région, le problème, c'est que toute la région était liée à cette économie du vin. Quand cette économie du vin s'est effondrée, c'est toute la région qui s'est effondrée. Et il y a eu des manifestations monstres, alors qui ont commencé. C'était entre l'Hérault et l'Aude essentiellement. De semaine en semaine, il y avait de plus en plus de gens dans les rues. Et puis ça jusqu'à cette manifestation fameuse du 9 juin 1907, où là, il y a environ 600 000 personnes dans les rues de Montpellier, qui n'en comptait que 90 000 habitants. Donc, si on fait une translation avec la population d'aujourd'hui, il faut imaginer plusieurs millions de personnes dans les rues, quoi. C'était phénoménal. Voilà, donc c'est à tel point que même, enfin, après, il y a des anecdotes, enfin, le cardinal de Cabrières a ouvert les portes parce que tous ces gens dans les rues, il fallait bien qu'ils aillent quelque part. Il n'y avait évidemment plus assez d'endroits pour les loger. Donc, le cardinal a ouvert les portes de la cathédrale Saint-Pierre aux manifestants. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qui se sont passées, bien sûr, autour. Bon, finalement, après, ils ont eu gain de cause, mais en fait, ça a été quand même assez violent, puisqu'il y a eu des morts, pas à Montpellier, mais dans des manifestations précédentes dans certaines villes, comme Narbonne ou Béziers. Enfin, ça a été quand même très, très dur.
Alors,
Voilà.
ça c'est donc avec la grande figure de comment, Marcelin Albert, c'est cela,
Voilà, exactement,
qui a
oui.
été un des leaders de ce mouvement. Alors, il n'y a pas que Montpellier, hein. Montpellier tient une place très importante, hein, dans le livre. Il y a beaucoup de choses
Oui.
qui se passent à Montpellier, mais vous promenez ailleurs, hein. Alors, on peut prendre quelques exemples. Il y a par exemple, là on est dans une grande ville avec beaucoup de monde. On peut aller dans un beaucoup plus petit village avec beaucoup moins de monde, avec le village de Selles. Donc vous nous racontez la naissance du lac du Salagou et la
Oui.
mort. Le gâchis, ou plutôt, oui, on pourrait dire la mort du village de Selles, mais inutilement.
Oui, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que bon, donc à un moment donné, on a décidé de créer artificiellement ce lac, hein, puisque c'est un lac artificiel, il n'est pas naturel. Et pour ça, il a fallu, bon, comme on fait dans ces cas-là, bloquer une rivière, donc effectivement inonder un certain nombre de terres cultivables. Et donc le village de Selles, d'après les calculs, devait être englouti, donc on l'a évacué avec tous les drames que ça suppose. Et en fait, au moment où l'eau est montée, elle s'est arrêté juste avant. Donc, en fait, il a été englouti pour rien. Alors voilà, donc cette histoire-là que je raconte, et bon, aussi c'est l'histoire donc de ce lac qui finalement, quand même malgré tout, bon, il y a eu des drames, mais il s'est quelque part imposé dans le paysage local. Et effectivement, il est assez magnifique, il faut le dire, quoi. Donc voilà, c'est cette histoire un petit peu à la fois abracadabrante, mais qui a des aspects assez poétiques aussi, parce que ce lac est vraiment une merveille, quoi, en réalité. Voilà, donc c'est voilà, il y a des histoires un petit peu étonnantes comme ça.
Voilà. Alors, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de recherches, hein, pour
Oui, bien sûr.
élaborer ce livre. Comment vous avez travaillé? C'est beaucoup de recherches sur les archives, à travers de livres déjà publiés, au travers de rencontres. Comment vous avez travaillé à
Oui,
explorer tout ça?
c'est essentiellement à partir de livres, bon, et de journaux, et bon, et Internet aussi. Maintenant, on a quand même pas mal, accès à pas mal d'informations. Donc, il faut au départ, c'est effectivement, il faut sélectionner les sujets qui seront ceux qui donneront justement suffisamment de matière. Après, bon, effectivement, il y a une recherche qui se fait dans les, bon, notamment à la médiathèque Émile Zola. Il y a toute une salle qui est, tout un étage même, qui est consacré au fonds régional, donc où il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Donc voilà, c'est une recherche essentiellement. Bon, il y a quelques rencontres aussi, mais effectivement, je ne peux pas aller à fond non plus dans chaque sujet, puisqu'il y en a 45. Donc voilà, je travaille à partir de livres éventuellement de recherches sur Internet ou à travers la presse et quelques rencontres aussi.
Oui, puis
Et
pour
après, pardon. Oui, après, le travail intéressant, c'est ben justement de trouver quels sont les sujets qui seront les plus parlants, quoi. Voilà, il y a, donc là, il y a tout un travail de recherche. Et après, bien sûr, il y a un travail d'écriture. Une fois que j'ai suffisamment de doc, ben après, c'est un travail plus classique, je dirais, enfin pour moi, d'écriture.
Alors, j'imagine qu'il y a eu des découvertes et des surprises pour vous au fil de ce travail. Quelles ont été
Ah oui.
Les plus marquantes ou les plus... Enfin oui, les plus marquantes.
Oui, les plus marquantes, ben, ça a été notamment le fait de découvrir que Montpellier a été la capitale de la parfumerie au XVIIe et au XVIIIe siècle, avant que Grasse ne la supplante. Donc ça, c'était quand même très intéressant parce qu'il s'est passé beaucoup de choses là autour de ça. Alors on parlait de viticulture, il y a la région de Béziers qui s'est énormément enrichie grâce au vin, puisque Béziers était la capitale du vin, et il y a eu à la fin du 19e au début du 20e, tellement de richesses que c'est toutes ces nouvelles familles qui se sont enrichies ont fait construire des châteaux assez baroques d'ailleurs, des châteaux, on les appelait les châteaux pinardiers parce que c'était vraiment le fruit du vin. Alors un peu dans le style, bon, on est dans l'époque un peu après Viollet-le-Duc et tout ça, un peu rococo avec des mélanges de styles. Et en fait, donc tout autour de Béziers, on a comme ça des châteaux tout à fait surprenants qui ont fleuri, dont certains existent encore, donc on peut les visiter.
Oui, il y a avec aussi des styles néo-gothiques, néo-renaissance,
voilà,
tout ce qu'on voudra.
Voilà, alors bon, ça a été effectivement très très critiqué parce que c'est un peu voilà, mais c'était un peu le goût de l'époque aussi, hein. Il y a pas que dans cette région que ça s'est fait. Je cite un extrait de Maupassant qui se plaint beaucoup de ce style un peu qui est effectivement comme vous dites néo tout et qui ressemble finalement à pas grand chose, mais ça a un côté assez amusant, quoi. Bon, après il y a là aussi le fait que c'est une histoire plus récente, le Pierre Soulages a fait la découverte de l'outre noir dans sa maison du Mont Saint-Clair à Sète. Donc je raconte effectivement un petit peu l'histoire du coup du Mont Saint-Clair et le fait qu'il a eu par une nuit d'orage en 1979 cette illumination, si on peut dire, de la découverte de l'outre noir qui est devenue après évidemment la marque de son œuvre créatrice.
Oui, qu'on peut voir au musée Fabre à Montpellier.
Qu'on peut voir notamment au musée Fabre, oui. Voilà.
Alors, il y a aussi des pages moins glorieuses, si je puis dire, et moins brillantes, et même des pages qu'on a envie d'oublier un petit peu dans la région. Je pense notamment au camp d'Agde.
Et oui, effectivement, là, c'est ce qu'on appelle ce mouvement qu'on appelait la retirade, c'est-à-dire quand, en fait, quand Franco est arrivé au pouvoir, ben évidemment, et a conquis le pouvoir sur les républicains espagnols, il y a tout un tas de gens qui ont dû fuir l'Espagne et se réfugier en France. Et ça, c'est un afflux de plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc, on a construit très, très vite et très, très mal, bien sûr, des camps. D'abord dans les Pyrénées-Orientales, là où ils arrivaient, et puis ensuite ces camps-là n'avaient plus assez de place, donc on en a construit notamment un assez important où il y avait plus de 25 000 personnes à Agde, donc, et c'est le camp des Catalans. Et donc là, ensuite, ils ont servi à différentes choses, et notamment de camps de concentration aussi pour malheureusement des Juifs qui après sont partis vers l'Holocauste, quoi. Donc c'est une histoire effectivement qui a été longtemps occulté, qu'on commence simplement depuis quelques années à réveiller. La retirade, c'est quelque chose dont on commence à parler, mais pendant longtemps, ça n'a pas existé. Donc c'était intéressant, je trouvais. Bon voilà, il ne s'agit pas non plus que de raconter des choses belles, parce qu'évidemment, comme vous dites, il n'y a pas eu que ça. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi dans ce même ordre d'esprit, Le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III en 1851, il y a eu dans notre département, dans l'Hérault, et là, plus particulièrement dans les Hauts-Cantons, vers Bédarieux, dans tous ces coins-là, il y a eu une répression très très forte, puisque c'est un des départements de France où il y a eu le plus de révoltes contre ce coup d'État de futur Napoléon III.
D'accord. Voilà. Oui, ce qui peut expliquer, rétrospectivement, c'est vrai que on a toute une région du centre Hérault comme ça où il y avait il y a quelques décennies, beaucoup d'élus de gauche, communistes
tout à
et
fait.
tout, qui occupaient une place très importante dans la vie politique locale.
Exactement, la sociologie du département a beaucoup changé depuis 20 ou 30 ans, mais pendant longtemps, bon, on parlait de Midi Rouge, etc., et donc c'était très important, quoi.
Voilà, alors bon, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait évoquer. Vous remontez quand même loin dans le temps.
Oui. Ben oui, l'idée c'était de. Oui, c'était pas, c'est pas que l'époque récente, bien sûr, c'est de. Je remonte même très très loin.
Voilà.
Jusqu'à la préhistoire.
Depuis la préhistoire jusqu'aux dernières années. Hein, puisqu'on on a les cafés Jacques Vabre, on a. Et beaucoup d'autres choses. Oui, alors vous parliez du vignoble, moi j'ai découvert des choses. C'est bon, vous parlez du muscat de Frontignan, qui bien sûr est célèbre, mais pas forcément le muscat blanc qu'on connaît aujourd'hui, hein. Pas forcément le vin d'apéritif, il y avait d'autres choses. Et puis que Saint-Georges-d'Or, qui était un vignoble extrêmement réputé, qui s'est exporté jusqu'aux États-Unis, notamment.
Oui, tout à fait. Oui, ça a été longtemps, d'ailleurs, le plus réputé, même vignoble de la région, le Saint-Georges-d'Orque. Et bon, il y a effectivement le président Jefferson, qui, avant d'être président, il a été diplomate, ambassadeur de France. Enfin, des États-Unis en France, et donc il a fait un grand, c'était un esprit curieux, ouvert, qui s'intéressait beaucoup notamment à l'agronomie, à la viticulture, et il a fait un tour de France, il s'est longuement arrêté dans notre région, et il a beaucoup apprécié et le muscat de Frontignan, comme vous l'avez dit, un petit peu le muscat de Lunel aussi, et les fameux vins de Saint-Georges-d'Orque, et il a contribué, puisqu'après il est devenu président, à leur exportation et à leur connaissance, le fait qu'ils soient connus aux États-Unis.
D'accord. Alors bon, il y a plein d'autres choses dont on pourra évoquer, mais on encourage nos auditeurs à se procurer le livre. On peut le procurer dans toutes les librairies qui font, comme on dit en très bon français, n'est pas du click and collect. Pardon. Voilà, donc, et puis peut-être chez l'éditeur directement, je ne sais pas si...
Oui, on peut, tout à fait. Sur son site, on peut commander le livre aussi. Oui.
D'accord. Mais alors, ce n'est pas vos seules activités, hein, j'évoquais, vous avez, avant d'écrire ces guides... est-ce qu'on peut parler de guide pour vous d'ailleurs?
Je me dis, je dirais pas guide parce que c'est plus des récits historiques en fait. Donc voilà, c'est pas. Alors effectivement, c'est intéressant après de parce qu'on voit les lieux différemment une fois que.
Ah tout à fait.
Effectivement,
oui.
qu'on a appris tout ce qui s'est passé. Moi d'ailleurs, c'est marrant. Ça fait depuis que je fais ce travail historique, même quand je me promène dans Montpellier, effectivement, je vois la ville différemment parce que je vois les images de tout ce qui s'y est passé et ça donne un recul, ça donne un regard différent y compris sur le présent.
Tout à fait. Oui. Ben ça, moi, il y a des lieux que je connais. Je me dis, mais ah bon, il se passait ça là-bas? Je ne savais pas.
Oui, c'est intéressant ça.
Vous parlez de Villeneuvette. Bon, alors je savais pour la manufacture de draps pour l'armée, mais qu'avant, ça exportait jusqu'au pays du Levant, comme on disait.
Oui, tout à fait. Alors, il y a une histoire aussi intéressante, pardon, on peut l'évoquer rapidement, qui n'est pas connue, je voulais en dire un mot, c'était que, en fait, il y a une villa qui s'appelle la Villa Argentine à Montpellier, dans le quartier des Arceaux, qui a été le lieu du premier, ça a été le premier réseau de résistance dans le sud de la France. Ça, bon, moi, j'avoue, aussi, j'ai ignoré avant d'avoir écrit le livre. Et donc, c'est intéressant de voir que bon, Montpellier a été le tout début, a été au tout début des mouvements de résistance en France, dès 1940.
Alors, donc on voit les découvertes que vous avez pu faire. Il y aurait sans doute aussi, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas retenues pour le livre. Il y aura peut-être un autre volume, je ne sais pas.
Oui, parce qu'après, il faut couvrir à la fois, c'est toujours pareil. Il faut couvrir, enfin, il faut pas que, comme vous l'avez dit, c'est pas que Montpellier, ni Béziers, ni Sète. Il faut couvrir tout le département, essayer de couvrir toutes les époques. Donc, c'est pour ça que, évidemment, ça ne peut pas évidemment être exhaustif, ni. Voilà, c'est un regard, c'est ni plus ni moins. Il faut pas non plus, c'est pas non plus un livre d'histoire. Voilà, il faut remettre une chose à leur place.
Alors, en quoi cette activité, et si est-ce qu'il y a une différence, vous sembliez dire que pas vraiment, avec votre activité d'écrivain qui écrit de la fiction?
Oui, parce que enfin, bon, ce sont des livres comme les autres. C'est qu'en fait, bon, il y a un vrai travail d'écriture après, parce que bon, alors, qui est basé sur une contrainte, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, l'éditeur me donne un nombre de caractères pour chaque texte, hein, puisqu'il y en a 45, donc il faut entre 7 et 8 000 caractères. Donc bon, il y a un travail d'écriture qui est intéressant parce qu'il faut aller à l'essentiel en fait. Donc ne prendre que des faits donc réels, donc des faits historiques, et il faut là, ensuite rendre le récit le plus intéressant possible. C'est un petit peu la même démarche que quand on écrit une nouvelle, par exemple. C'est-à-dire qu'essayer d'être percutant, d'être précis, d'apporter des éléments nouveaux, que ce soit intéressant à lire. Voilà, donc là, il y a un véritable travail d'écriture, sauf que je me base non pas sur de l'imagination, mais sur des faits réels.
Oui, et puis dans chaque chapitre, quand vous évoquez le travail des nouvelles, je me dis, oui, vous avez eu cette attention à la chute, si je puis dire.
Oui,
Comment je
voilà, il y a.
termine?
Oui, bien sûr. Donc, il y a le. Bon, là, c'est plutôt un chapeau, donc l'introduction, si vous voulez, qui un peu, nous donne envie aussi de savoir ce qui va se passer ensuite. Et il faut qu'il y ait quand même une progression un petit peu dramatique et, si possible, une chute, effectivement.
Alors, vous avez d'autres activités hein, que toujours autour de l'écriture. Vous proposez aussi des ateliers d'écriture. Alors,
Oui, tout à fait.
il y en a pas. On se doute qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment avec toutes les
Non, là,
problèmes de confinement.
ouais, c'est un
Mais
peu calme.
à qui vous les proposez avec quelle philosophie ou quelle technique
Mais en fait, j'ai choisi une technique qui est, ça s'appelle écrire une nouvelle à partir d'un tableau. C'est-à-dire que j'ai constaté au travers de diverses expériences que j'ai eues d'ateliers, justement, que pour des gens qui n'ont, par exemple, jamais écrit de fiction, jamais, parce qu'il s'agit de ça, quand même, à la fin, arriver à écrire une petite nouvelle, c'est parfois, ben, moi-même, quand j'ai commencé à écrire des nouvelles, j'ai eu cette difficulté, c'est pas évident de trouver un sujet, de trouver un angle, de trouver une histoire à raconter. Donc je choisis des tableaux le plus souvent quand même enfin classiques dans le sens où bon, on a des tableaux de Manet, de Toulouse-Lautrec, de gens comme ça, de Renoir, qui j'en ai choisi une douzaine qui déjà racontent un peu une histoire, c'est-à-dire vous avez plusieurs personnages, on voit qu'il se passe des choses entre eux, comme dans certains tableaux effectivement de Renoir ou de bon, et ça aide si vous voulez les participants à l'atelier à démarrer, à trouver un sujet, à trouver un début d'histoire. Et après, évidemment, bon, le travail de l'atelier, c'est de les aider à structurer cette histoire et à en faire une courte nouvelle. Mais j'avais commencé ça avec des jeunes lycéens et j'avais remarqué que ça marchait. Donc, si vous voulez, le tableau sert à débloquer l'écriture, en fait. Et après, on est sous la forme d'un atelier classique où, évidemment, après, il s'agit d'écrire une histoire avec.
Donc, et c'est ouvert à tout public, y a pas.
Ah oui, absolument, oui, tout à fait, oui.
Les gens qui viennent à ce type d'atelier, c'est purement ludique, c'est parce qu'il y a des projets d'écriture derrière, ou c'est des vieux rêves, qu'est-ce que c'est?
Oh, il y a un peu toujours de tout ça, il y a un peu de tout ça. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui font, qui ont, oui, bon, qui ont souvent, parfois, ou un peu commencé à écrire, mais parfois pas du tout. J'ai un peu tous les cas de figure. Alors, bon, ludique, oui, parce que quand même, bon, c'est pas, voilà, on fait ça quand même dans la bonne humeur. Enfin, c'est pas quelque chose de, voilà, il faut qu'il y ait du plaisir aussi, évidemment. Mais en général, ce sont quand même des gens qui sont un peu titillés, comme beaucoup de gens le sont, par l'écriture. Parce que, et effectivement, ça les aide à le formaliser, à arriver à aboutir à un texte, ce qui n'est pas évident quand même, parce que ça dure une journée. Bon, bon après, il y a eu plusieurs journées, c'est-à-dire il y en a pas mal de gens qui sont revenus parce qu'après, effectivement, comme ça leur a plu. Donc, au fur et à mesure, si vous voulez, la première journée, je pose un peu les bases, comment écrire une nouvelle. Et après, les journées suivantes, bon, pour ceux qui reviennent, je choisis un petit peu des angles. Ça peut être ce qu'on appelle le point de vue, c'est-à-dire qui raconte l'histoire. Est-ce qu'on écrit avec le jeu ou avec le il, enfin, etc. Après, on peut travailler plus spécifiquement les dialogues sur certaines journées, voilà, au fur et à mesure, pour ceux qui reviennent plusieurs fois.
Oui, donc il y a, du coup, c'est un travail qui peut être aussi parfois individualisé avec certaines personnes qui reviennent.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je prends pas beaucoup de très peu de gens, entre 4 et 5. Voilà, les derniers, bon, déjà, puisqu'il y avait des conditions sanitaires déjà limitées, c'était pas plus de 4. Donc, ça permet, sur toute une journée, il y a des moments bon, où effectivement, je prends les gens individuellement et on regarde, on travaille plus spécifiquement en individuel. Et puis après, il y a des moments, comme dans tout atelier, effectivement, où, enfin, pour ceux qui le veulent, ils lisent leur travail. Et donc, moi, je fais un retour, et les autres aussi peuvent faire des retours. Il y a un échange, et ça se passe bien, parce que c'est bon, ça, c'est une ambiance quand même évidemment agréable. Et donc, on le fait chez moi. Et donc, ça donne quand même des résultats intéressants, puisque bon, les gens reviennent, c'est que ça leur a plu.
on peut faire l'hypothèse, en tout cas. Et alors, pour les personnes qui nous entendent et qui seraient intéressées, comment ils peuvent vous trouver pour savoir les prochaines dates
Ben, j'ai un blog où, à ce moment-là, je peux peut-être vous laisser mon mail aussi, qui est très simple, c'est Raymond, raymond.alcover, alcoverre, donc c'est prénom, prénom, @gmail.com.
D'accord, voilà. Écoutez, on mettra ça sur la page de l'émission, sur le site de la radio. Et puis, ils vous contactent et puis vous... Et
voilà.
Puis, à suivre, quoi.
Hein. Voilà.
Bien, et alors, ce livre vient de paraître, donc j'imagine pour vous, vous l'avez terminé il y a déjà quelque temps.
Oui.
Il y a d'autres choses en chantier actuellement?
Oui, alors je viens de commencer quelque chose que j'avais jamais abordé jusque-là, parce que bon, pour un petit peu changer, j'avais envie de faire quelque chose d'assez différent, c'est que j'ai commencé à raconter une sorte d'autobiographie. Je remonte dans mon passé, dans mes souvenirs, et puis je raconte tout ça, tout en mettant ça en lien avec mes lectures, avec certaines rencontres que j'ai faites, etc. Donc j'essaie d'un peu remonter un peu le fil. Voilà. Bon, je ne sais pas du tout jusqu'où j'irai, mais en fait, ça, c'est bien démarré, disons.
Bien, on guettera ça chez, alors je suppose, ce sera peut-être un autre éditeur, on verra. Parce que
oui, je ne sais pas encore, je ne suis pas encore à trouver un éditeur. Mais...
Bien, en tout cas, merci beaucoup. Alors, je rappelle à nos éditeurs, donc, Au lieu de l'histoire dans l'Hérault, de Raymond Alcover, et c'est aux éditions Le Papillon Rouge. Merci, et puis je dis à nos auditeurs, lisez-le, vous vous promènerez pas dans l'Hérault avec le même regard.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.